This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous, c'est Bertrand, je suis votre coach web, ou plutôt, je devrais dire aujourd'hui, je suis ton coach web. Bon, après tout, on est samedi matin, je vous parlais hier du tutoiement et je me dis, bah tiens, ce serait une occasion de faire un bel essai, parce que plutôt que de rester sur le vouvoiement, je vais essayer de faire cet épisode sur le mode du tutoiement, du tu. Donc voilà, aujourd'hui, je suis ton coach web. Nous sommes ensemble à la cool, moi je sirote mon bulletproof coffee du matin, ou café gras, donc c'est aujourd'hui un café du Brésil, un peu de beurre et de l'huile de coco, et normalement c'est censé nous éveiller la cervelle, nous mettre couper l'appétit aussi d'ailleurs, mais ça moi je déjeune à côté, donc c'est pas mon problème. Et puis nous mettre en forme pour le reste de la journée, faire un peu de bon gras. Alors j'en ai besoin en plus parce que c'est on a toujours besoin d'un peu de gras hein, pour son dans son alimentation, et notamment quand vous êtes coureur. Ce soir j'ai une course de 23 km. Donc je me méfie un petit peu de ce que je mange aujourd'hui. Le but du jeu c'est de pas avoir les intestins, le ventre enflammé, etc. De pas être bien. Le sujet d'aujourd'hui, donc à la cool, c'est hier je portais un t-shirt qui reprend le principe du keep calm, voilà. Et le t-shirt c'est keep calm et follow me. Donc c'est sur le thème suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et alors j'ai fait une, je portais toute la journée comme ça mes réunions et tout. Puis j'ai eu un moment donné, je me suis dit mais en fait on pourrait changer le message. J'ai fait une petite photo hier que je vais mettre en couverture de l'émission. Et j'ai pris ensuite l'application Annotable sur mon iPhone, vous savez, qui permet de. Enfin, tu sais, pardon, qui permet de modifier le. Enfin, dessiner, gribouiller sur une image. Et donc j'ai barré le Me et j'ai transformé en You. Donc ce qui donnerait un Keep Calm and follow You. C'est en fait le message que j'ai envie de vous donner. Excuse-moi. Et c'est la preuve que le tutoiement pour moi est pas naturel, mais je vais continuer d'essayer. Ce que je voulais te dire en fait, c'est que l'important c'est de te faire confiance et de te lancer. C'est le message que je voulais vous donner ce matin. Je vais faire un épisode qui sera réellement court. J'ai plusieurs fois dit que l'épisode devait être de court, mais le message que je veux te donner, c'est que le but du jeu, à un moment donné, sur internet, sur les réseaux sociaux, c'est que si tu prends pas le micro, si tu te lances pas, si tu n'oses pas publier la photo, si tu ouvres pas ton compte Instagram, si tu ne l'ouvres pas au public, si tu crées pas ton blog, si tu crées pas ta page Facebook, si tu... je sais pas, il y a plein d'outils. Par exemple, depuis quelques jours, je me pose la question de tester un outil qui s'appelle Encore.fm pour faire un peu de streetcast un petit peu différemment. Si tu envoies pas des mails, si tu collectes pas des mails, si tu n'oses pas demander le mail à quelqu'un ou quoi que ce soit, quelque part, tu n'existeras pas. Et donc le message de ce matin, c'est que je voulais dire, il faut accepter de te suivre et accepter de te faire confiance surtout. Et c'est important parce que le message que j'ai souvent, quand j'ai des gens en formation, en atelier comme ça, ou même dans mon entourage, c'est de me dire mais qui va s'intéresser à ce que je raconte sur une story Instagram? Mais qui va s'intéresser à ce que je raconte sur Twitter, sur mon blog ou quoi que ce soit? Il y a personne qui va s'intéresser à ça. Et ben en fait, c'est un peu la réalité. Au départ, il n'y a personne qui va s'intéresser à ce que tu racontes. Je lis plusieurs bouquins en ce moment. Et je lis notamment Austin Kleon, Volé comme un artiste. Et il y a un chapitre dans lequel il dit « Au commencement, l'anonymat est une bonne chose ». Et donc j'ai pris quelques notes sur le sujet. Et il dit, il y a un petit bout de passage qui est assez intéressant. Il dit « Le reste du monde est indifférent à ce que l'on pense ». Je sais, cette vérité est brutale. Et en fait, bon, il a entièrement raison. Je l'ai dit dans un premier épisode, tu te rappelles que on est dans une surproduction de contenu et une surconsommation de notre part, mais nous, toi comme moi, on n'a que 24 heures dans sa journée, il faut dormir, travailler, manger, etc. Donc, personne ne peut consommer du contenu en pagaille. Par contre, tout le monde peut produire du contenu. On est dans un monde de surconsommation. Et donc, Austin Kleon reprend la citation de l'écrivain Stephen Pressfield qui dit les gens, en fait, sont indifférents à ce que l'on dit, ce n'est pas parce que les gens sont méchants ou cruels, c'est parce qu'ils sont occupés. Voilà. Donc les gens sont occupés et à un moment donné, si on veut trouver l'audience, il faut arriver à s'infiltrer dans leurs occupations. C'est la bataille de l'attention. On en reparlera, et je t'en reparlerai très souvent, c'est comment tu fais pour attirer l'attention de quelqu'un et comment tu fais pour la garder. Dans ma newsletter d'hier d'ailleurs, je sais pas si vous êtes, si tu es abonné, mais dans ma newsletter d'hier, qui est ma newsletter hebdomadaire plutôt orientée autour des mêmes thématiques que ce podcast, j'ai mis un lien justement vers une vidéo de Maximus, qui dans un live un jour, il y a 3 minutes où il explique comment garder l'attention du spectateur sur une vidéo, etc. Alors j'aime bien son image parce que lui il part du principe, il dit si t'as vu Mission Impossible, ben, il faudrait que chaque histoire que tu racontes soit Mission Impossible. Tu fais un gâteau au chocolat, et ben il faut que ton gâteau au chocolat tu le fasses façon Mission Impossible, que tu mettes quelque part une certaine... un suspense. Alors, il y en a plein de techniques et je reviendrai dessus, les climax et compagnie. Il dit, un bon moyen par exemple de mettre du suspense dans le gâteau au chocolat, c'est de dire, bon j'ai toute la journée pour faire gâteau au chocolat, mais en fait, si je me mets un délai, il faut que je le fasse dans 2 heures, qu'il soit terminé mon gâteau au chocolat. C'est d'ailleurs un peu le principe du meilleur pâtissier. L'autre jour je me faisais la réflexion, je me dis, les obliger à faire un gâteau en 1h30, etc., rajoute de la tension, etc., mais toi, tu peux rajouter de la tension dans tout ce que tu racontes. J'ai un exemple à te donner, par exemple, je faisais des vidéos quotidiennes au mois de décembre, mois dernier, sur du vlog, et j'attendais avec impatience le cadeau de Noël de ma femme. Et donc le 24, au matin, j'ai commencé ma vidéo sur un épisode qui dit au début je savais pas, et puis j'allume la caméra et je dis, est-ce qu'aujourd'hui je vais recevoir le cadeau d'anniversaire de ma femme? Ça faisait plusieurs jours que j'attendais, j'avais un peu dit dans certaines vidéos. Et donc... quelque part, ça m'a créé ma trame de tension. Voilà. Est-ce que ce cadeau va arriver ou pas? Est-ce que je suis en mesure de mettre ce cadeau sous l'arbre de Noël le soir ou pas? Bah, sans qu'il y paraisse, c'est un épisode que moi j'ai beaucoup aimé, parce qu'en plus c'est facile de trouver la musique dessus, c'est relativement facile de rythmer, et j'ai des gens qui m'ont dit, bah tiens, quelqu'un m'a dit, oui, mais justement, c'est vraiment demandé, t'as maintenu le suspense jusqu'au bout. Bah, c'est un bon moyen de garder les gens comme ça en haleine. Mais avant de les garder en haleine, quelque part, il faut arriver à se mettre devant eux. Alors, la création d'audience, la création d'audience, c'est quelque chose qui est compliqué, hein, faut pas se leurrer, on est en surconsommation de contenu, tout le monde est un média, tout le monde produit, je reviendrai dessus. Mais au départ, être dans son coin, l'anonymat, comme dit Austin Kleon, il dit un truc qui est vrai, c'est qu'on est un peu, on est tranquille, ça a ses avantages. Le premier avantage, quand on allume le micro pour la première fois, qu'il n'y a personne qui écoute vraiment ce qu'on va raconter, ou qu'on fait une photo, c'est qu'en fait, on n'a aucune pression. J'ai pas la pression de ce que j'ai fait par le passé, j'ai pas la pression des gens qui attendent ce que je viens de faire, puisque personne ne sait que je viens de le faire, ou que je vais le faire. Donc j'ai aucune pression, une vraie liberté d'agir à ma guise, de trouver mon style. C'est pas comme si, par exemple, un Instagrammeur qui a 10 000 ou 15 000 fans, il se met à changer de style de photo et il change de style de photo, il est super fier de sa première photo, puis quelqu'un lui dit « Ah, je préférais les anciennes ». Bah ça, quand on débute, on l'a pas. On peut donc essayer plein de trucs. On peut chercher ce qu'on veut faire, etc. Et on peut vraiment tenter beaucoup d'expériences. Les erreurs, en plus, ça se voit pas. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens. Je leur dis « De quoi vous avez peur quand vous lancez votre page Facebook ?» Quand tu lances ta page Facebook... Et beaucoup de gens, ils ont peur de prendre un bad buzz. Mais en fait, ils devraient plutôt avoir peur de parler dans le vide. Parce qu'au début, quand tu lances ta page Facebook, bah, quelque part, tu parles à personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a des amis, on va inviter quelques amis, mais ces amis, c'est des gens bienveillants, en plus, au départ. Quel est le risque? Il n'y a pas de risque. Le risque, en fait, ça serait de pas ouvrir la page Facebook ou alors de ne jamais la mettre à jour. Je le disais tout à l'heure aussi, on n'a pas de pression, donc on n'a pas non plus d'image à soigner auprès du public. Alors surtout quand on est quelqu'un qui n'est pas connu, quand on est dans l'anonymat le plus réel, etc., qu'on n'a pas de nom, qu'on n'a pas de réputation, je parle sur Internet, hein, on n'a pas une image à dire « Ah, il faut absolument que je sois dans mon code de ce que j'ai fait par le passé, etc. » et autres. Petit à petit, c'est des choses qui vont venir après. Bon, on n'a pas non plus, comme on peut démarrer tranquillement dans son coin, moi je dis, pour faire une vidéo YouTube, si vous avez un smartphone, ça suffit, même le, bon, et il faut se démerder pour que le son soit pas trop mauvais, mais le podcast, c'est ce que je disais, quand tu démarres un podcast, tu branches ton micro de, t'as même pas besoin de, si t'as un smartphone, tu peux faire du podcast. Je parlais tout à l'heure de Encore.fm, quelqu'un qui a un iPhone ou un téléphone Android, il charge l'application, il crée un compte gratuit, il peut appuyer sur un bouton et faire du podcast. Alors, on n'est pas dans du podcast, comment dire, avec le son, sera peut-être pas exceptionnel, etc. Mais quelque part, au départ, il n'y a pas d'investissement à faire. Je l'ai dit l'autre jour, il n'y a pas besoin d'avoir un gros investissement pour le faire. Et puis, on n'est pas parasité par tout un tas de pensées, de gens qui viennent aussi, parce que moi, dans les parasites, on se dit, mais que vont penser les gens de nous, mais il y a aussi les gens qui, naturellement, viennent un peu pour vous polluer l'air, quoi. Ces gens qui viennent vous polluer l'air d'ailleurs, certains c'est des trolls et ils le font consciencieusement pour vous emmerder, mais il y a beaucoup de gens en fait qui polluent l'air juste parce qu'ils sont comme ça, quoi. Ils ont une question à poser, mais ils se rendent pas compte. Des fois, certains ils peuvent être un peu maladroits, par exemple, etc. Je reviendrai tout à l'heure juste un petit peu dessus. Donc, ce moment où en fait où tu démarres, où tu appuies pour la première fois sur le bouton, où tu publies pour la première fois, en fait, c'est un grand moment de liberté, mais il fait peur. Alors, je me rappelle de mes cours de philosophie, où on disait que le vertige venait de la peur de passer faire le pas qui nous balançait dans le vide, en fait. Et en fait, c'est vrai que quand on réfléchit à la création de contenu, à lancer un blog, etc., la peur de publier le premier contenu, le tout premier article, etc., elle est importante, alors que pourtant, il n'y a personne qui te regarde, il n'y a personne qui t'écoute. Donc finalement, t'as peur de quoi? Alors souvent, oui, on a peur, et c'est vrai, on a peur d'avoir de l'échec. Tout le monde, moi le premier, toi, etc., quand on fait quelque chose, on aimerait bien qu'on soit écouté et autres. Mais au départ, on commence dans le vide. Mais tout le monde a commencé à zéro. Moi, je gère plusieurs types de contenus. Donc par exemple, ce podcast... qui a une semaine, et il fait quoi? Il fait 30 ou 40 téléchargements à chaque épisode pour l'instant. Mon streetcast en fait une centaine ou peut-être 200, ça dépend des épisodes. J'ai mon blog perso qui fait peut-être 300 ou 400 lectures par article, un autre blog qui en fait 500 ou 600, et puis j'avais un autre blog, mon blog Cyberbounia, lui en faire 3000 ou 4000 lectures, et puis l'autre jour j'ai une vidéo sur YouTube qui en a fait 14 000. Mais au départ... toute personne qui se lance commence à zéro. Si je lance un nouveau blog dans quelques jours, mon blog il commence à zéro. Alors bien sûr, je vais pouvoir essayer de lui donner un coup de main parce que moi j'ai une première audience à droite à gauche, mais quelque part tout le monde commence à zéro. C'est ce que je dis d'ailleurs, je dis prenez n'importe quelle personne qui fait des vidéos sur YouTube qui est connue, elle a aussi commencé à zéro. Et donc le jour où elle met sa première vidéo, de toute façon, il n'y a personne qui l'a vue. Donc la peur qu'elle a, c'était plutôt de... Et la peur que tu dois avoir, c'est... je la comprends, c'est de se lancer. C'est de tenter l'expérience et de voir où on peut aller. Mais quelque part, il faut passer ce cap. Il faut se dire, je tente, je regarde ce qui se passe, je regarde ce qui va se passer derrière. Ensuite, on va essayer de chercher à grossir. Et c'est là où, en fait, moi, je trouve qu'il y a un vrai risque. Parce que le risque, c'est d'essayer de grossir pour être vu, et finalement, c'est de dire, est-ce que je fais le choix d'avoir une audience restreinte, ou est-ce que je veux avoir une audience plus large? Alors, l'audience restreinte, la niche, elle a quelque chose qui est très confortable. C'est parce qu'en fait, quand t'es dans une audience qui est assez restreinte, une communauté qui est assez serrée, elle est souvent bien plus bienveillante, parce qu'en fait, ce sont des gens qui te ressemblent le plus. Parce que finalement, hier je parlais d'un être humain à un être humain, mais les premières personnes qui vont t'écouter, qui vont te regarder, etc., sont probablement les gens qui se reconnaissent le plus dans ce que tu fais, et donc qui sont probablement en fait les plus toi. Ou alors tu vas ressembler à leur. Comment dire? Alors eux, qu'ils aimeraient bien être, hein, c'est-à-dire une petite version, un tout petit poil amélioré, voilà. Je trouve pas tout à fait l'expression pour le dire, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est je donne un exemple. Tu fais un truc sur le podcast, comment lancer un podcast, et quelqu'un qui écoute sur qui veut faire du podcast écoute ce que tu racontes. Et en fait, il se rend compte que tu es débutant dans le podcast, et tu dis voilà mes départs dans le podcast. Et lui, il se dit lui, il est comme moi, sauf que lui, il a passé le cap d'ouvrir le micro et de raconter ça. C'est quelque chose qui n'existe plus après quand on grossit, parce que quand on grossit, qu'on devient meilleur, on se professionnalise, etc., et on a aussi beaucoup plus d'audience, ben on commence à s'attirer des gens qui sont plus loin de ce qu'on est, et nous-mêmes, on est plus loin de ce qu'est le débutant ou de ce qu'on était au départ. Et puis, quand on veut absolument grossir, en fait, on a une tendance à partir sur des terrains qui ne sont plus tout à fait les terrains que nous sommes au départ. Je vais prendre le cas, par exemple, si vous prenez les blogueurs, mais prenez les youtubeurs. Il fut une époque où, même des gens comme Cyprien, un youtubeur comme ça, tu regardes ses vidéos du départ, et il évolue, et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont débuté sur un... qui se sont mis à faire donc du mode podcast, mais face micro, avec du petit sketch, etc. Puis après, on passe sur un autre cap. Puis à un autre cap, à un moment donné, les youtubeurs, on s'est tous vus, il y avait le Twitch a progressé, les chaînes de jeux ont progressé, d'un coup, on s'est vu des youtubeurs qui sont mis à faire des chaînes spécialement aux jeux vidéo. Et puis après, ils vont faire du vlog sur du voyage, et puis de l'exploration urbaine, etc. Et là, on s'est retrouvé avec certains qui font du hand spinner. Alors, Kézin Estat, que j'aime beaucoup, on a même d'ailleurs fait un truc rigolo en disant, je fais une vidéo sur le hand spinner pour, histoire de dire, pour attirer un peu d'audience. Mais, quelque part, sur tous les réseaux, on a cette tendance de dire, si je veux toucher d'autres personnes, il faut que j'arrive à parler d'autres sujets. Moi, je disais, sur mon blog de mec, si je veux grossir un peu, faudrait que je parle de mode. Mais je suis pas à l'aise là-dedans. Donc, je vais rester sur un secteur qui est plus intéressant pour moi. Dans lequel je me sens à l'aise. Et c'est un problème aussi quand on travaille avec les influenceurs. Si par exemple ta problématique à toi, c'est de trouver des gens pour relayer ta marque, trouver un influenceur, on a deux types d'influenceurs. On a les très gros, et qui nous apporteraient une visibilité maximale, mais qui coûtent cher, et qui ont une audience qui est tellement large en fait qu'ils ont plusieurs types d'audience, de segmentation d'audience. Et puis on a les petits influenceurs, les micro-influenceurs. J'ai mis des liens dans ma newsletter la semaine dernière, je te mettrai un lien dans la description, où finalement le... Il est plus petit, mais comme il est plus proche de son audience, il fait tout pour la satisfaire. Et en fait, les membres de sa communauté lui ressemblent plus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, ces petits influenceurs, souvent, ils sont beaucoup moins suivis au sens du chiffre large, mais ils sont beaucoup plus écoutés par quelques dizaines, quelques centaines de personnes qui les écoutent vraiment, voilà, et qui ne font pas que les regarder, mais qui les suivent réellement. Et donc ça, c'est là où c'est intéressant, parce que c'est ce qu'on appelle les vrais fans, les vrais followers, et on n'a pas besoin d'avoir 6 millions d'abonnés sur YouTube pour avoir des vrais followers, en fait. Et donc, quand on travaille avec des influenceurs, on travaille aussi avec des petits influenceurs, déjà, ils coûtent moins cher, ils sont plus faciles de travailler avec eux, ils sont plus honorés et tout, et ils sont moins chers, et ça, je viens de le dire, mais ils sont aussi plus connectés à leur communauté. Et alors que plus on grossit, plus on se retrouve avec des gens qui finalement sont éloignés de ce qu'on est. Je te donne un exemple sur Cyberbounia, donc qui est site d'actualité, qui a 17 ans. Ça fait 17 ans que je parle d'actualité, de politique, de Clermont-Ferrand, d'Auvergne sur la page, sur le site. Et un jour, il y a quelqu'un qui... il y a eu beaucoup de fans qui sont arrivés sur des photos, sur des choses comme ça. Et quelqu'un m'a dit, mais depuis quand votre page parle de politique? Voilà, sur Facebook, la personne me dit, mais depuis quand votre page parle de politique? C'est dommage. Et je lui dis, ça, pas sur Facebook depuis 15 ans, mais ça fait 17 ans que le site existe, ça fait 17 ans que le site parle de politique, c'est même l'une des raisons d'être et un des fondements du site. Sauf qu'en fait, ce fan qui est arrivé, qui est débarqué, ce nouveau fan, lui, il est arrivé par, je vois des photos d'Auvergne, je vois des trucs qui me plaisent sur le shopping, et puis pendant peut-être 15 jours, 3 semaines, il n'y avait pas eu d'actualité politique, j'en ai pas parlé, et premier message politique, ça lui plaît pas. Et en fait, je lui ai répondu un truc, je lui ai dit, oui, mais on a 400 ou 500 articles politiques sur le site. C'est pas le premier, quoi, c'est juste un parmi des centaines, et ça sera pas le dernier non plus. Donc, plus tu grossis, plus tu augmentes statistiquement la chance de te coltiner des emmerdeurs. Voilà, ça c'est la règle. Alors, il y a des emmerdeurs, je disais, volontaires, c'est ce qu'on appelle les trolls, c'est des gens qui veulent faire dégénérer les choses. Et puis, on a des gens qui sont juste comme ils sont, quoi, voilà. Et ils sont pas, c'est pas toi qui fais mal les choses, c'est pas eux qui font bien, qui font mal les choses, qui veulent pas t'emmerder, c'est juste que vous avez du mal à communiquer, à trouver le même mode de communication. Hier, je disais, communication, c'est, j'aimais, il y a un émetteur, un récepteur. Hier, entre deux profs que je voyais à la fin, ils n'arrivaient pas à communiquer, à parler sur le même, peut-être ils étaient à 3 mètres l'un de l'autre, ils n'arrivaient pas à se mettre en face l'un de l'autre. Dans son livre, Tools of Titan, Tim Ferriss, d'ailleurs, il dit un truc intéressant, il estime qu'en fait, il y a 10% des gens qui, quoi que tu fasses, trouvent toujours le moyen de se sentir visés. Donc ils réagissent mal, potentiellement, parce que comme ils se sentent visés, ils ont une réaction qui est un peu instinctive de protection, donc ils ont une tendance à mal réagir. Et en fait, alors lui, sa règle, c'est de dire que il faut les ignorer, c'est comme ça que ça marche, mais il dit qu'en fait, il y a carrément 1% de gens dans son audience, dans une audience, qui sont carrément, qui pètent les plombs, quoi. Qui sont, mais ça peut aller jusqu'aux menaces, etc. Alors, si vous êtes Tim Ferriss, si tu es un jour Tim Ferriss, que tu as 1 million de personnes qui écoutent ton podcast, 10% ça fait beaucoup. 1% ça fait beaucoup. Si tu as une petite audience de niche, le pourcentage d'avoir ce 1%, en fait, il est très minime. C'est un de temps en temps, quoi. Faut pas t'inquiéter pour lui, il faut. Moi, je dis à mes clients, je dis aux gens que je crois, je dis de toute façon, un jour ou l'autre, tu le croises. Mais c'est là où il faut respirer, aller courir, souffler, etc. Enfin, faut trouver un truc, mais faut pas que ça te mine le moral, quoi. Voilà. Surtout, ce qu'il faut faire dans cette question-là, c'est que comme tu démarres au début, et pourquoi je dis qu'il faut te faire confiance aussi, c'est que je voudrais finir sur une réflexion que j'ai lue aussi dans le livre de Tim Ferriss. C'est Glenn Beck, alors que moi je connais pas plus que ça, mais qui fait des interviews, fait de la radio, l'internet, qui a lancé le site blaze.com, etc. Et en fait, il parle d'une expérience dans un des podcasts, il parle d'une expérience où quelqu'un lui dit qu'il est parfait, et lui dit qu'en fait, il déballe toute la réalité en montrant qu'en fait, il est pas parfait, qu'il est alcoolique, ou je sais pas quoi. Et lui, il pense que ça tue sa carrière, et en fait, il se rend compte que c'est là que sa carrière, en fait, elle prend un nouveau tournant, parce que il a compris que les gens voulaient de l'authentique. Et c'est ce que je t'ai dit ces derniers temps, depuis le début du podcast, c'est qu'en fait les gens ils veulent quelqu'un qui soit authentique. Ils s'en foutent d'avoir quelqu'un qui soit réellement parfait, etc. Ce qu'ils veulent c'est quelqu'un qui soit authentique, qui parle d'humain à humain, avec le cœur, etc. Et voyez, ben, tu vois que là on est bien dans ma conclusion de ces 9 premiers épisodes que je viens de faire. On est vraiment dans cette logique-là. Alors il dit un truc intéressant. Les gens vous acceptent avec vos défauts tant que vous êtes sincère. Dès que vous leur mentez, ils se désintéressent. Et en fait, ce qu'il apprend ce qu'il pense être une erreur ce jour-là d'avoir dévoilé tout ça, c'est qu'en fait, il dit, soyez prêt à accepter l'échec ou la réussite de la personne que vous êtes au fond de vous. Voilà. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Il dit aussi, n'essayez pas de faire croire que vous êtes quelqu'un d'autre. Ce que vous êtes est suffisamment bien pour ce que vous faites. Et je trouve que c'est une magnifique conclusion et une magnifique manière de voir les choses. Il faut se lancer, il faut que tu oses, il faut que tu appuies sur le bouton enregistrer, mais aussi sur le bouton publier. Il faut, voilà, faut pas s'excuser de créer d'ailleurs quelque chose. Faut pas dire, ah, ben, je suis désolé, je crée un podcast, mais je suis pas certain qu'il soit très très bon, etc. On a tous tendance à le faire, hein. C'est un peu naturel. Mais il faut appuyer sur les boutons, appuyer sur le bouton publier. Faire des choses, je leur dirai, hein, l'important c'est de publier. Donc lance-toi, fonce, ose, crée des choses, teste ce qui marche, teste ce qui marche pas, essaie de montrer, essaie de t'entraîner, de faire des choses, petit à petit essaie de le montrer aux gens, et petit à petit, ainsi, on devient créateur de contenu et on prend un peu plus confiance en soi. Mais le meilleur moyen de ne pas se perdre dans tout ça, eh ben, c'est de rester soi. Et. Bah, continuer de persévérer le plus longtemps possible. Donc voilà, c'était le message de la journée. Moi, je vais finir mon petit café. Je vais aller voir, j'ai une conférence de presse tout à l'heure là sur du. Donc je vais aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis le programme de la journée, c'est sieste cet après-midi, course ce soir. Donc c'est pour ça aussi que j'ai enregistré ce matin. Donc je te souhaite une très très belle journée, un très très bon week-end. Et je te dis à demain. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.